France Culture.
Réplique, l'aide active à mourir avec Philippe Juvin et Denis Labelle. La loi ouvrant une aide active à mourir a été votée à l'Assemblée nationale le 27 mai dernier par 305 voix contre 199. Mais le Sénat ne s'est pas encore prononcé et la discussion est loin d'être close. Nous la poursuivrons aujourd'hui avec deux grands médecins hospitaliers, Philippe Juvin et Denis Labelle. Je leur demanderai d'entrée de jeu ce que contient ce texte de loi et si, selon eux, il va dans le bon sens, s'ils y voient un progrès salutaire ou au contraire une inquiétante régression. Philippe Juvin.
D'abord, merci infiniment de votre invitation sur un sujet qui évidemment a animé l'Assemblée nationale et qui va encore l'animer puisque nous sommes à la première lecture, comme vous l'avez dit. Donc c'est une loi qui s'intitule « Aide à mourir ». Le mot « euthanasie » d'ailleurs et « suicide assisté » n'est nulle part dans la loi. C'est un reproche d'euphémisation qu'on lui a faite, qui permet, dit-elle, à un certain nombre de gens majeurs, plus de 18 ans, qui sont atteints d'affections graves, invalidantes, avec un pronostic vital engagé, mais sans délai, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs années à vivre et être intégré dans la loi, et qui présente une souffrance physique ou psychologique, de demander une aide à mourir à condition qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un consentement libre qui est lui-même défini dans la loi, et c'est un des sujets qui nous a beaucoup fait discussion et moi qui m'inquiète. Un consentement libre et éclairé, c'est un consentement dont le discernement n'est pas gravement altéré. Donc on peut imaginer qu'un discernement un peu altéré, et vous voyez déjà la difficulté à juger tout ça, permet de bénéficier de cette loi. C'est une loi dont les critères sont en réalité pas suffisamment stricts, nous allons en discuter, que je considère comme expéditif puisque les délais sont assez courts. Entre le moment où vous voyez le premier médecin et que vous pouvez exiger de bénéficier de cette suicide assisté ou de cette euthanasie, il se passe entre 2 et 17 jours, alors que dans d'autres pays, on est sur plusieurs mois, souvent. Et il y a une procédure qui fait qu'en fait, vous pouvez ne rencontrer qu'un seul médecin physiquement, en tout et pour tout. Pas d'avis obligatoire de psychiatre, pas d'avis obligatoire d'un juge, comme certains l'avaient proposé, dont votre serviteur, et pas d'exclusion d'un certain nombre de populations qui nous inquiètent, en particulier les malades psychiatriques, les déficients mentaux, ne sont pas exclus a priori. Enfin, ça pourra se faire dans tous les lieux, sauf les voies publiques quand même, c'est-à-dire évidemment les EHPAD, les hôpitaux, les prisons. Et il y a eu un débat sur les prisons. J'espérais, moi, qu'on puisse ne pas avoir à faire ça dans les prisons, parce que ça pose des problèmes
abyssaux. Ça pourra se faire à la maison aussi.
À la maison, dans tous les lieux, sauf les voies publiques. Donc voilà cette loi. Et puis avec un délit d'entrave dont nous allons parler, ça signifie que la loi prévoit expressément que toute personne qui s'opposera ou essaiera de peser psychologiquement, y compris psychologiquement, sur la personne qui décide de l'aide à mourir, eh bien, pourra être punie par la loi. J'avais essayé d'introduire dans la loi qu'on puisse exclure, par exemple, les psychiatres, les ministres des cultes, la famille de ce délit d'entrave, et cela a été refusé. Donc je trouve que c'est une loi qui, d'ailleurs, à l'aune de ce qui se fait chez nos voisins étrangers, pose problème, puisque nous allons, je pense, en parler aussi, et les expériences étrangères montrent que tous les critères qui se veulent au début stricts s'ouvrent, en fait.
Oui, il y a un critère strict. Je rappelle quand même que pour accéder à l'aide à mourir, le malade devra remplir 5 conditions, être majeur, être français ou résident étranger régulier et stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique constante, réfractaire au traitement, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Voilà les 5 conditions, mais Denis Labelle, quel est votre jugement sur ce texte de loi?
Je dirais enfin une loi. Ça fait 40 ans que le sujet est débattu, même au Parlement et au Sénat. Ça fait 20 ans que que les Français réclament un changement radical de la loi et des lois qui ont été promulguées. La Convention citoyenne s'est prononcée à 75% pour un changement de la loi, soit le suicide assisté, soit l'aide médicale à mourir, soit les deux. Le Parlement s'était déjà prononcé une première fois, le 8 avril 2021, sur une proposition d'Olivier Falorni, et c'était l'article premier. Bien sûr, c'était dans une niche parlementaire, donc on n'a pas pu aller plus loin, mais c'était une majorité écrasante, 240 voix contre 48. Donc, ça fait des années que nous attendons qu'il y ait cette loi de liberté, même si elle n'est pas parfaite, c'est une porte ouverte, c'est essentiel. Et je crois qu'il faut comparer, on va peut-être y revenir tout à l'heure, à tous les pays qui nous entourent, nous sommes l'un des derniers à évoluer. Un des derniers.
Oui, nous sommes un des derniers à évoluer, dites-vous. Et vous-même, vous êtes très engagé en faveur de, quand même, ce qu'on a le droit d'appeler l'euthanasie, puisque c'est la bonne mort. C'est ça que ça veut dire étymologiquement. Vous avez injecté des produits létaux en toute illégalité. Mais justement, qu'est-ce qui a motivé chez vous, Denis Labelle, un tel combat, un combat aussi militant?
Écoutez, c'est la vie qui m'a révélé cela. Ce sont les malades qui m'ont formé. J'ai pas d'idéologie préconçue, je suis dans une famille catholique, etc. J'avais des principes religieux au départ. Et puis, le contact avec la souffrance, l'écoute des malades, parce que je suis dans une spécialité tout de même où on suit les malades au long cours. On n'est pas chez les chirurgiens.
Gastro-entérologue, c'est ça.
C'est pas le cas des chirurgiens, c'est même pas tout à fait le même cas que les réanimateurs et les anesthésistes. Donc on est confronté à une sorte de création d'une alliance avec le malade, et cette alliance aboutit à une écoute. Alors soit on les écoute pas et on garde des principes personnels que je respecte, soit on les écoute et on se rend compte à quel point ils sont divers. Il y a des malades qui souhaitent aller dans les soins palliatifs, c'est pas la foule, souvent c'est parce que c'est un pis-aller. On a des malades qui me disaient « mais enfin je préférerais rester dans votre service », sauf qu'on a réduit considérablement le nombre de lits d'hospitalisation en France. Puis il y a d'autres qui me disaient « je voudrais aller chez moi ». Et vous m'écoutez, j'ai envie de partir. Voilà, alors soit on n'écoute pas, soit on se dit, bon ben vraiment, il y a un vrai problème. Donc en fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage et il m'a semblé important que ce combat en faveur du choix des malades, la liberté de choisir, soit quelque chose de fondamental. La liberté, c'est l'un des critères de la République.
Vous dites aussi dans votre livre, j'ai choisi ce métier pour soulager la souffrance des êtres humains et en aucun cas pour l'aggraver. Alors vous êtes médecin aussi, Philippe Juvin, que répondez-vous ?
Je reviens sur les critères stricts que vous avez cités. Il faut bien comprendre, chacun des mots est important quand on parle d'une maladie en phase terminale ou avancée. Ça peut être une maladie qui a des années à vivre. Quand vous avez un diabète, c'est une maladie qui répond à tous ces critères. Le diabète, l'insuffisance rénale dialysée. Et pourtant, vous vivez avec des années avec, c'est une maladie grave, incurable. Et si vous ne la traitez pas, qui engage le pronostic vital. Donc que les gens comprennent qu'on n'est pas sur une loi de fin de vie. On est sur une loi qui englobe beaucoup plus que des patients de fin de vie. Cela étant dit, je reviens sur la question fondamentale que vous avez abordée, qui est la question de la liberté. J'ai pratiqué des euthanasies au début de ma pratique médicale. Quand j'ai commencé médecine, j'ai passé l'internat en 1988. Il n'y avait pas de soins palliatifs, il n'y avait pas de loi Leonetti, il n'y avait pas de sédation profonde. Il nous arrivait effectivement d'administrer à des patients en fin de vie, je précise en fin de vie, ce qui est évidemment tout à fait différent de certaines situations que l'on entend décrire aujourd'hui, des médicaments qui abrégeaient la vie. Mais depuis, que s'est-il passé ? Il y a eu la loi Leonetti et Claes Leonetti, il y a eu les soins palliatifs. Et que voit-on en soins palliatifs ? Il y a une étude très intéressante qui a été montrée que quand les gens arrivent en soins palliatifs, 3% d'entre eux demandent à mourir le premier jour. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%. Que s'est-il passé en 7 jours ? Eh bien, il s'est passé qu'on a apporté des réponses aux patients ou à la famille. Et cet élément est absolument fondamental. Enfin, toutes les demandes d'euthanasie que j'ai vécues depuis la création de ces lois Leonetti, toutes répondaient à ce critère. C'est que les gens, en fait, ne demandent pas à mourir, ils demandent à être aidés, si vous voulez. Et d'ailleurs, quand on parle des soins palliatifs, c'est important, mais honnêtement, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait que votre vie vaut le coup d'être vécue. C'est aussi l'environnement. Quand vous êtes paralysé et que vous avez le fauteuil électrique automatique, l'aide vocale avec l'ordinateur à commande de paupières pour les patients qui souffrent de paralysie complète du type locked-in syndrome, vous savez, le scaphandre et le papillon, bien évidemment, la fin de vie, même si elle est terrible, est beaucoup moins pénible que quand vous êtes seul. Quand vous vivez au sixième étage sans ascenseur, que l'infirmière vient vous voir une fois par jour. Quand vous êtes grabataire au lit, est-ce que vous croyez que vous êtes pareillement libre si l'infirmière est là pour vous lavez dès que vous êtes sale, ou si l'infirmière, il faut que vous l'attendiez une fois par jour. La question de la liberté, elle est aussi, je crois, à relativiser en fonction des moyens dont on dispose.
Oui, d'ailleurs, dans votre intervention à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, vous êtes tourné vers les bancs de la gauche et vous leur avez fait une leçon de marxisme en leur rappelant la critique adressée par Marx aux libertés formelles.
Les libertés formelles.
Ça, Philippe Juvin.
Parce que c'est une chose de dire que les gens sont libres. Mais encore une fois, j'ai pris à dessein cet exemple du grabataire qui baigne, pardon d'être dans les détails, mais je le fais à dessein, dans ses urines, dans sa merde, dans sa sueur. Quand on vous lave en permanence, quand il y a quelqu'un pour vous aider, quand il y a quelqu'un pour vous tenir la main aussi dans les moments difficiles, c'est plus facile que quand vous êtes seul et que vous n'avez pas de moyens. Autrement dit, je pense que cette loi, d'une certaine manière, elle est écrite par des gens qui sont plutôt en bonne santé, qui sont inquiets de leur décadence, et c'est une inquiétude légitime. Mais elle va plutôt s'appliquer à des gens qui sont pauvres et isolés. D'ailleurs, au Canada, posons-nous la question, pourquoi 30% des gens qui bénéficient, entre guillemets, du suicide assisté ou de l'euthanasie sont-ils handicapés? C'est une surreprésentation des handicapés. C'est une de mes craintes.
Oui, et en même temps, je pense à cette neurologue Anne-Laure Bock qui, dans un article du Débat, avait dit que le progrès de la médecine aboutissait à ce résultat très paradoxal. La médecine fabrique des handicapés. Elle parle aussi à un moment donné, et comme j'avance en âge, la formule m'a beaucoup frappé, de nonagénaire dément. Oui, parce que notre corps est un grand appareil, on répare tout, mais pas complètement, et notamment pas le cerveau. Mais Denis Labelle.
Oui, je voulais intervenir sur des points importants. Tout de même, ce n'est pas une loi faite au hasard. Même si je ne partage pas tous les points de vue de la loi, ce sont vraiment une loi de fin de vie. Tout au moins une loi de gens qui sont une maladie grave incurable. Et la Haute Autorité de Santé a même précisé que le côté avancé, ça correspondait à un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Donc le diabète standard n'entre pas dans ce jeu-là, il ne faut pas jouer sur les mots. Donc je pense qu'on est vraiment dans une situation de fin de vie. Alors le mot avancé est difficile à interpréter, puisqu'en médecine, on ne peut jamais prévoir le pronostic, c'est absolument impossible. Mais on voit bien qu'on est dans une maladie qui avance et qui est grave et qui entraîne des douleurs difficilement contrôlables. Alors en ce qui concerne l'histoire de la pauvreté, mais moi je suis tout à fait pour, que les pauvres se mettent au niveau des riches, mais alors c'est une évidence, que l'on donne à toutes les personnes qui sont en situation pauvre les moyens d'avoir une personne à domicile, etc. Soyons raisonnables. Moi, je me suis bagarré pour le service public. Le service public, c'est le moyen pour les personnes qui n'ont plus les moyens d'avoir des soins de qualité. Voilà. Vous savez, la phrase de Jaurès, elle est très bonne. Elle disait que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est absolument fondamental que l'on donne des éléments du service public. Mais je ne rêve pas d'avoir la possibilité de donner à toutes les EHPAD, des EHPAD qui ne seront pas de qualité, des moyens de fonctionner de façon digne. Donc, il faut tenir compte de ce fait social. Et la deuxième chose, c'est que la maladie ne fait pas le tri. Le jour où il y a un cancer du pancréas, c'est le pauvre et le riche qui se retrouvent face à cette maladie, face à la dégradation de cette maladie, face aux douleurs. Alors peut-être que le riche aura les moyens d'aller à l'hôpital américain, dans les comptes, mais de toute façon, il souffrira. Il y a de grandes chances. Le pauvre, il souffrira aussi. Et donc, le problème, il est là aussi.
Oui, alors justement, on vous électera pour cancer du pancréas, dont l'issue est la plupart du temps fatale, qu'il y a une alternative, à savoir les soins palliatifs. Vous allez aux soins palliatifs, avec tous les médicaments qu'on vous donne, vous ne souffrez pas. Or, dans votre livre, Denis Labelle, vous parlez, j'étais très frappé par l'expression, d'acharnement palliatif. Alors, que voulez-vous dire par là?
Les soins palliatifs, je ne suis pas contre du tout.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, soyons clairs. Seulement, les soins palliatifs ont des limites. Seule la Société française de soins palliatifs estime qu'il n'y a pas de limite. Elle traite toutes les douleurs, il n'y a aucun problème de dépression, tout cela va très bien une fois. Il faut savoir que lorsqu'on entre dans un centre palliatif, la plupart du temps, on vous prévient. Pas d'euthanasie ici. Donc les 3% qui baissent à 0,3%, c'est déjà une sélection considérable de malades. Et puis les soins palliatifs soutiennent des positions, et en particulier de la loi Claeys-Leonetti, où moi, en tant que médecin, je suis totalement opposé. En deux mots, la sédation profonde et continue. La terminologie est satisfaisante. On se dit, voilà, on va pouvoir s'endormir comme ça tranquillement. Mais quand on lit le texte de la Haute Autorité de Santé, que beaucoup de gens n'ont pas lu, ni politiques, ni les médecins souvent, Et ce texte de 25 pages est absolument inquiétant. C'est-à-dire que, un, sur le plan des indications, elles sont extrêmement limitées. Il faut que vous soyez vraiment à la porte de la mort. Et encore, qu'est-ce qui décide que vous êtes à la porte de la mort ? Et surtout, la méthodologie qui est proposée est assez stupéfiante. Et je suis très étonné que le monde médical n'ait pas réagi quand c'est sorti. Un, on va vous déshydrater, puisqu'on vous supprime l'hydratation. Alors très rapidement, vous avez une sensation de soif qui apparaît. C'est-à-dire, vous rajoutez une douleur à une souffrance, à des souffrances existantes. Et puis, la sédation n'est pas du tout profonde et comme c'est prévu. Initialement, oui, vous avez un sédatif qui vous met dans le coma. Mais ensuite, une fois que le produit est éliminé, si vous avez un médecin qui est là, qui vous remet le sédatif, très bien, il faut que vous restiez dans une situation de coma, comme ça, somnolente. Mais s'il n'y a pas le médecin, hein, vous retrouvez les douleurs insupportables. Et voilà, vous aboutissez à des agonies prolongées. Et je rappellerai, puisqu'on parle souvent du serment d'Hippocrate, qu'il est bien marqué dans le serment d'Hippocrate, il est interdit de prolonger l'agonie. Et donc, on arrive avec une méthodologie que beaucoup de médecins n'acceptent pas, comme ça, ils ne le font pas. Moi, je n'ai jamais déshydraté un malade, jamais. C'est absolument inacceptable. Donc, c'est là où je parle d'acharnement palliatif.
D'acharnement palliatif, mais pourquoi ? Parce que ça veut dire que...
On prolonge l'agonie inutilement et cruellement. Oui.
Non, je ne partage évidemment pas du tout cette affaire. J'ai pratiqué et je pratique et sédation profonde et continue. Donc techniquement, on peut en parler. D'abord, je veux rappeler qu'un des grands sujets de cette loi, c'est qu'on va avoir probablement des gens qui vont demander l'euthanasie et le suicide assisté par défaut d'accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, 500 personnes meurent en France tous les jours sans avoir eu accès aux soins palliatifs alors qu'ils auraient dû avoir accès aux soins palliatifs. Pour avoir une consultation contre la douleur en France, le délai, c'est 2 à 9 mois, selon le département où vous habitez. Et là, on sera sur une euthanasie suicide assistée qui pourrait être délivrée entre 2 à 17 jours. Donc on voit bien le risque, pour 1000 raisons, y compris d'organisation de la santé, qui fait que des gens, probablement, auront affaire à l'euthanasie suicide assistée par défaut d'accès aux soins tout court, et pas seulement aux soins palliatifs. Maintenant, sur la sédation profonde et continue, loi Leonetti, qui ne fait pas 25 pages, elle en fait 4, je l'ai sous les yeux. Elle dit quoi ? Elle dit que quand vous êtes à la fin de la vie, c'est vrai, à la fin de la vie, et que vous en avez exprimé la volonté immédiatement ou à travers des directives anticipées, eh bien, si les soins deviennent, selon la terminologie anglaise, futiles, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir que vous retrouviez une vie de relation en particulier satisfaisante, ou vous avez des douleurs qui sont insupportables tout simplement, on vous endort. C'est quoi ? C'est une anesthésie générale. Et je suis très surpris de vous entendre, parce qu'en pratique, comment ça se passe ? Puisqu'il faut entrer dans la pratique. On pose une perfusion au patient, on administre un anesthésique général, celui-ci s'endort, et après une seringue électrique prend la suite. Et évidemment, on n'abandonne pas le patient tout seul dans un coin. Il y a toujours quelqu'un pour surveiller, pour augmenter la dose. Ce qui est vrai, en revanche, et là je vous suis, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, elle est mal faite. Elle est mal faite. Je vous le dis, je suis professeur de médecine, donc j'apprends la médecine aux jeunes. Et j'ai parfois des jeunes à qui je dois dire non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Le vrai sujet est là. C'est qu'aujourd'hui, la sédation profonde et continue, c'est la réponse qui permet aux auditeurs inquiets qui m'entendent et qui ont peur de souffrir en fin de vie. Je leur dis, vous pouvez demander à être endormi. Et on prend souvent dans le débat l'aspect, vous savez, des maladies de Charcot. On dit, ah oui, mais la maladie de Charcot...
Quelqu'un... Ben oui, parce que vous n'êtes pas éligible aux soins palliatifs.
Vous êtes Charcot. Si, alors vous, dès lors que vous franchissez une étape, par exemple, quand vous avez nécessité d'avoir une sonde pour vous aider à vous nourrir, ou un appareil pour vous aider à respirer, par exemple la nuit, ne serait-ce que cela, vous êtes éligible et on peut vous endormir. Et je suis frappé de voir que je parle avec un certain nombre de gens qui ont la maladie de Charcot, et quand je leur dis qu'ils sont éligibles à la Leonetti, autrement dit, qu'on peut les endormir, ils me regardent en disant « mais c'est vrai ». Je dis « oui, c'est vrai ».
Quelle est votre réponse ?
Vous appuyez sur la loi Leonetti, le texte, mais je suis désolé. Il y a la tête de la Haute Autorité de Santé que vous trouvez sur Internet, sans problème. 25 pages, je maintiens. Et en effet, à l'hôpital, vous pouvez mettre une seringue et le fait que les gens s'endorment. Mais ce n'est pas une anesthésie générale, parce que les doses sont calculées pour que vous restiez en une situation de coma somnolent. C'est-à-dire que dès que vous revenez un petit peu à la surface, hop, on vous met du produit. Et puis, il est bien marqué dans le texte de la Haute Autorité de Santé que si c'est fait en ville, le médecin doit passer 2 fois par jour. C'est marqué en texte. Et en EHPAD, 3 fois. Vous voyez, le samedi, le dimanche, le malade passait 3 fois par jour pour adapter les doses de la sédation profonde et continue. C'est un mythe, absolument un mythe. Et donc, nous avons énormément de témoignages de gens qui disent « comment ça fait, ça a duré des jours et des jours et des jours ?» Moi, mon père, il a eu la sédation 15 jours, ça durait. Mon frère, 1 mois, une hémorragie cérébrale massive dans un service de soins palliatifs, 1 mois. Alors oui, à chaque fois, on le disait, mais écoutez, les doses devraient augmenter. On le disait, oui, mais si on augmente, c'est de l'euthanasie. Voilà. En Belgique, Il n'y a aucune frontière entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Et c'est ça que je souhaite, que les gens qui veulent les soins palliatifs gardent les soins palliatifs, il n'y a aucun problème, mais qu'il y ait un jour, ils ont envie de partir plus rapidement, qu'on leur laisse cette liberté.
Bien. Alors, vous disiez, Philippe Juvin, qu'en effet, on utilisait plutôt un euphémisme aujourd'hui, on n'osait pas parler d'euthanasie.
Le mot n'est pas dans la loi.
Oui. Le mot n'est pas dans la loi. Mais justement, ceux qui parlent d'euthanasie le font avec toutes les connotations que ce terme comporte pour justement délégitimer cette loi. Je voudrais vous citer un message posté par Philippe de Villiers, parce que ça rentre dans le débat, il faut bien le reconnaître. Le jour où la loi a été votée. Il écrit « C'est un des jours les plus tristes de ma vie. La loi sur l'euthanasie nous rappelle ce qui s'est passé sous le Troisième Reich. Nous versons dans l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection de ceux qui sont aptes à vivre ou à mourir. Honte à ce gouvernement qui fait basculer la France dans l'abîme. » Est-ce que vous pensez que cet argument est à la hauteur de la question qui nous est tous posée, puisque, évidemment, la condition de l'euthanasie, c'est la demande faite par le malade. Et d'ailleurs, Denis Labelle dit qu'on passe avec ça de la toute-puissance du médecin à la toute-puissance du malade. Et ça, on se dit, bah, c'est pas si mal, non ?
Alors d'abord, c'est pas la toute-puissance du malade, puisque dans la loi telle qu'elle est écrite, ça pourrait, mais dans la loi telle qu'elle est décrite, il n'y a un seul médecin qui finalement décide. Un seul médecin que vous voyez. Vous ne rencontrez qu'un médecin, et c'est lui seul qui va décider. Ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. La question des mots, elle est fondamentale, parce que on est dans une époque qui ne dit pas les choses, et qui euphémise. Rendez-vous compte que dans cette loi, et c'est le seul élément que nous avons pu arriver à contrebalancer, il était indiqué que la mort par euthanasie devait être déclarée dans les registres officiels comme une mort naturelle. Et donc, on gomme tous les mots qui font peur, parce que la réalité, c'est que le mot euthanasie fait peur, parce qu'il couvre une réalité que vous avez rappelée, qui elle-même fait peur.
Est-ce que c'est à bon escient qu'on agite cette peur ? Quel rapport, sincèrement, avec le troisième mois ? J'ai juste avec Philippe Duvillier, j'étais atterré.
Je pense que, alors d'abord, il y a des racines idéologiques qui animent en particulier l'association de droit à mourir dans la dignité, qui est une association très militante. Et quand je lis, par exemple, je ne sais pas moi, le bulletin de la DMD, j'ai repris les statistiques. C'est très intéressant parce que septembre 1987, bulletin de la DMD. Le vieillard, le plus souvent, n'est plus utile à personne, même si aimablement, on l'assure du contraire. Pratiquement, il n'a plus de devoirs, il risque à tout moment de devenir une charge pour les siens. Et pour la société, en tant qu'inactif, c'est toujours une charge financière. Donc, il y a des racines idéologiques qui sont très claires et qu'il faut... Ce serait idiot de ne pas les voir. Oui, je crois qu'au fond du fond, nous ne supportons plus l'incertitude morale qui était pourtant l'essentiel de la grandeur humaine. On veut transformer un acte qui est forcément complexe. C'est complexe. Je veux dire, c'est complexe à tel point que, dans mon discours à l'Assemblée nationale, je dis que je n'aurais pas été contre une exception d'euthanasie. Oui. Donc j'en vois toute la complexité. Mais on veut transformer cet acte complexe en un geste technique neutre. Une sorte de situation tragique doit devenir un acte juridique. Comme si on voulait exempter de l'angoisse, de la culpabilité, les individus et la société. Et c'est cela aussi que je trouve frappant dans cette loi.
Oui, Denis Labelle.
Pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, il y a deux possibilités d'être actif à mourir. Il y a soit le médecin est là, c'est l'aide médicale à mourir, c'est ce qui se passe en Belgique, soit c'est le suicide assisté, c'est-à-dire que la personne elle-même met fin à ses jours. Donc c'est très important de voir ces différences. La loi actuelle s'oriente vers le suicide assisté et non pas vers l'aide médicale, sauf si la personne ne peut pas du tout intervenir. Je voudrais préciser une chose. S'il y a un médecin qui sera présent au moment de l'acte, mais la décision est prise par deux médecins plus un soignant. Je m'excuse, c'est ça la réalité. Ce n'est pas du tout un seul médecin qui décide pour les autres. Ensuite, les mots sont importants, sont très importants. Vous avez tout à fait raison de le dire. Le mot euthanasie, dans son étymologie, est bonne, sauf qu'il a été modifié, transformé, métamorphosé par des gens qui sont... Bon, les nazis, il faut dire les choses quelque chose. Et je n'admets pas que ma philosophie puisse être rapprochée de quoi que ce soit avec ces gens que je déteste. Voilà. Donc, il faut utiliser les vrais mots. Et moi, j'avais dit, de toute façon, le mot euthanasie ne sera pas dans la loi. De la même façon que le mot avortement n'a pas été dans la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Parce qu'il y a des mots qui ont été tellement marqués par les opposants. Vous vous souvenez, les avortoirs qu'il y avait au moment de la truc. Qu'il ne faut mieux pas les utiliser. Donc, qu'on utilise l'aide active à mourir, ça me semble tout à fait valable. Moi, dans les débats, très souvent, on n'arrête pas de me dire, vous tuez les malades. Alors moi, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot. Le Larousse, le petit Robert, il rappelle que le mot tuer, ça veut dire retirer la vie de l'autre avec violence. On tue beaucoup sur Terre. On tue beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, je ne voudrais pas citer, mais il y a un certain nombre. Alors que là, comme vous l'avez fait remarquer, c'est une réponse à une demande dans un esprit de compassion. Ça n'a strictement rien à voir. Le malade me demande quelque chose et j'essaye d'y répondre.
Oui, alors d'ailleurs, j'ai trouvé une réponse anticipée à l'analogie proposée par Philippe de Villiers dans le roman de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Le dernier chapitre porte sur le chien Karénine, le sourire de Karénine, c'est le titre du chapitre, et un paragraphe commence ainsi. Par rapport à l'homme, le chien n'a guère de privilèges, mais il en a un qui est appréciable. Dans son cas, l'euthanasie n'est pas interdite par la loi. L'animal a droit à une mort miséricordieuse. Je trouve très beau ce mot de mort miséricordieuse. Et pour aller encore dans le même sens, le grand projet moderne, tel qu'il a été formulé notamment par Bacon, c'était dominer la nature pour soulager le sort des êtres humains. Et alors, que dit Bacon lui-même dans un de ses livres? J'estime que c'est la tâche du médecin non seulement de faire retrouver la santé, mais encore d'atténuer les souffrances et les douleurs. Et ce, non seulement quand un tel adoucissement est propice à la guérison, mais quand il peut aider à trépasser paisiblement et facilement. Voilà une défense de l'euthanasie qui n'a strictement rien à voir avec Hitler. Vous serez d'accord, Philippe?
Je suis évidemment d'accord. Et j'espère que personne n'imagine aujourd'hui qu'un médecin face à une souffrance laisse souffrir les gens. Bien entendu, je vous invite à venir dans toutes les unités de soins palliatifs, mais pas seulement. Non, le problème, c'est qu'il y a un écart abyssal entre les intentions qui sont raisonnables, qui essayent de se fixer des limites, et les conséquences qui sont absolument terrifiantes. Prenez les Belges. Au début, on avait dit consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, on ouvre aux enfants. Consentement libre et éclairé, on ouvre aux enfants. Le Canada, les maladies graves, les maladies qui sont exceptionnelles. Finalement, au Canada, 5% des décès, de tous les décès, c'est de l'euthanasie. Donc on n'est plus sur l'exception. En Hollande, seulement les malades conscients en phase terminale, au début. Et maintenant, on parle des personnes âgées sans pathologie. Enfin, les fameuses polypathologies. Vous savez, Stevenson, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, dit « Tout le monde, tôt ou tard, s'assoit au banquet des conséquences. »
Le banquet des conséquences. Alors, Denis Labelle.
Moi, je voudrais dire que, de toute façon, l'aide active à mourir ne représente qu'une extrême minorité de gens. Dans tous les pays où elle était légalisée, 3,5% en Belgique, 4,5% en Hollande, 6% au Québec. Ça veut dire qu'il y a 94% des gens qui ne demandent pas. Mais dans les enquêtes sociologiques qui ont été faites, en particulier en Belgique, 80% de la population ne veulent pas qu'on revienne en arrière parce que cette loi désangoisse. Et alors ça, je peux vous dire, au point de vue expérience personnelle, le fait de savoir qu'on peut éventuellement l'utiliser, ça change complètement. Mais alors, je n'ai encore un exemple, il y a 48 heures, ça change complètement la vie des gens.
C'était quoi cet exemple?
Eh bien, c'est une personne qui avait 90 ans, en pleine forme, qui a un cancer du poumon, qui a une angoisse terrible de mourir asphyxié, qui ne peut pas être opéré, etc. Et je lui dis, mais on vous accompagnera, on sera là, on fera notre possible. Je ne sais pas encore comment, ni comment, mais... Et elle m'a dit, mais c'est inimaginable de savoir cela. Ah, ça me permet de respirer. Bon, mais ça, j'ai eu des exemples, des dizaines d'exemples. Oui. Et donc, la Belgique, on a tellement dit de choses que je voudrais juste terminer, et je vous laisse la parole après. Non, il y a eu 6 adolescents, il y a 6 cas d'adolescents. Et croyez-moi, c'est douloureux. Vous imaginez, il faut l'accord des parents qui acceptent que leur patient, leur enfant, qui a une maladie grave et incurable, et qui souhaitent partir, acceptent de partir. Moi, je respecte totalement, je ne connais pas les cas par cas, mais c'est rarissime, soyons clairs. Et puis de toute façon, c'est pas dans le cadre de la loi, il faut avoir plus de 18 ans.
Il faut avoir 18 ans dans cette loi, oui. C'est des conditions restrictives, je l'ai rappelé au début.
En Belgique, la loi était à 18 ans aussi, et puis elle a été ouverte ensuite. On voit dans tous les pays les critères augmentés. D'abord, le patient dont vous parlez qui a un cancer du poumon et qui a peur de mourir asphyxié, aujourd'hui, la loi Leonetti, le jour où il a des difficultés à respirer, immédiatement on peut l'endormir. Donc je veux que les choses soient dites, parce que, alors, est-ce que ça va comporter peu de monde? Bah écoutez, d'abord, on ne sait pas, par définition, puisque c'est l'avenir. Ça va concerner peu de monde. Si on applique les ratios de Belgique et de Hollande, on peut s'attendre à 32 000 personnes en France par an. Si on appliquait les ratios de l'Oregon, seulement 4 500. Donc, vous avez cité, moi, je vais vous citer Bernanos, la France contre les robots. La machinerie est-elle une étape ou le symptôme d'une crise, d'une défaillance des facultés des intéressés de l'homme au bénéfice de ses appétits? Ma crainte est là, voyez-vous.
Quels seraient les appétits, en l'occurrence?
Les appétits sont multiples. Il y a des patrimoines à transmettre. Enfin, c'est une évidence. Docteur, il y en a pour longtemps.
Ça, c'est pas le malade qui dit ça, quand même.
Mais bien sûr. Mais vous savez, le malade peut être aussi poussé. Vous n'avez jamais entendu... Moi, j'ai entendu ma grand-mère qui disait « Oh, je suis une charge pour vous ». Eh bien, voyez, ça tombe bien maintenant. Il y a une solution si tu ne veux plus être une charge. Et le fameux Richard Matheson, une nouvelle, l'examen qui est terrible. Les personnes âgées doivent passer un examen tous les 5 ans. Et si tous les 5 ans, ils réussissent l'examen, ils vivent, sinon ils doivent... Et en fait, la femme du héros, évidemment, est un peu embêtée par cette affaire, mais il y a quand même une chambre à récupérer parce qu'on est petit. Non, voyez-vous, il y aura des intérêts. Il ne faut faire aucune illusion. Et y compris familiaux, parce que, et je vais terminer là-dessus, moi, je me suis occupé aussi de gens de ma famille qui avaient des maladies comme ça. C'est très fatigant, aussi pour la famille. Et les familles sont parfois usées. Les demandes d'euthanasie viennent aussi parfois des familles. Et dans mon hôpital, j'hospitalise souvent des gens âgés, très dépendants, très grabataires, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que la famille doit souffler.
Oui, je sais ça, j'ai connu ça. Oui.
Donc là, vous risquez d'avoir une pression familiale. Et d'ailleurs, sociétale, on pourra se poser peut-être la question de l'argent.
Mais oui.
Vous savez que les Canadiens, l'année dernière, ont économisé, c'est leur système de santé, 80 millions de dollars. Attention, je ne dis pas que les députés ont voté pour faire des économies, cela, je suis persuadé même du contraire, absolument. Mais ne vous faites aucune illusion. Quand une mutuelle dit qu'elle veut le suicide assisté ou l'euthanasie, elle a forcément des idées derrière la tête. Alors, quand c'est une mutuelle française, on dit non, c'est par humanité. Mais ça aurait été une société d'assurance médicale capitalistique américaine qui aurait fait la même publicité sur l'euthanasie que, par exemple, la mutuelle générale de l'éducation nationale, que n'aurait-on pas entendu?
Je voudrais dire que, enfin, moi, tout de même, ça fait 25 ans que la Belgique a cette loi, que la Hollande a cette loi. Vous avez entendu parler d'un massacre des handicapés? Non. Il faut arrêter aussi d'agiter des peurs inutiles. Il y a une commission de contrôle qui vérifie si les dossiers sont conformes. Et en ce qui concerne le financement, on peut l'inverser. Je m'excuse, mais on peut maintenir en vie la personne âgée parce qu'on lui touche son salaire. Donc, je veux dire, il faut arrêter de divaguer dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est pas le problème de financement.
Mais en même temps, donc j'y vis, il y a un certain nombre de conditions dans cette loi pour qu'elle soit restrictive. Mais d'autre part, j'ai appris que un certain nombre de maladies neurodégénératives étaient exclues de cette loi, comme la maladie d'Alzheimer. Et ça m'a beaucoup frappé et en réalité beaucoup inquiété. J'ai lu, il y a quelque temps, un livre de Paulina Dallmayr, « Je vous tendrai la main, euthanasie, travaux pratiques ». Et elle reproduit cette lettre déchirante reçue par un médecin belge. Je vis sans espoir, sans passé, sans mémoire, sans avenir. J'ai la maladie d'Alzheimer, je perds peu à peu la parole, je meurs un peu chaque jour, je n'appartiens pas à un dieu, je suis libre, j'ai pensé au suicide assisté, j'ai fait ma demande parce que je suis fatigué, j'ai fait mon devoir envers la société. Tout le monde peut attraper Alzheimer, riche ou pauvre. Un peu plus tard, elle écrit dans une carte postale, elle dit à son médecin que s'il n'accepte pas sa demande, elle essaiera de s'écraser contre un mur avec sa voiture. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais parce qu'on oublie beaucoup les étapes de la maladie d'Alzheimer. On dit maladie d'Alzheimer, on a perdu tous ses repères, on ne reconnaît pas les siens, etc. Non. Vous commencez à avoir des pertes de mémoire, etc. Donc vous consultez. Et quand vous consultez, le verdict tombe. Et quand le verdict tombe, eh bien, le médecin vous dit « faites des exercices », mais en réalité, la voie est tracée, et c'est un processus très long. Ça peut durer 7, 8 ou 10 ans. Et je pense aussi à ce romancier belge, Hugo Claus. On lui a annoncé ça. Bon, il a attendu, et à un moment, il a compris que ça allait trop loin, donc il est allé en Belgique dans une maison prévue à cet effet, pour l'euthanasie, avec sa femme, ils ont sabré le champagne, et il est mort. Donc tout ça, évidemment, comme j'arrive à un certain âge, comme j'ai vu des choses autour de moi, j'y pense. Et peut-être, si vous voulez, si j'apprends un jour que j'ai la maladie d'Alzheimer, et que je suis assez lucide pour comprendre ce qui m'arrive, et surtout ce qui va m'arriver dans les 7, 8 ou 10 ans à venir, peut-être irai-je en Suisse ou en Belgique. Philippe Juvin.
Il y a effectivement 152 Français en 2022 qui sont allés en Suisse ou en Belgique, sur 640 000 personnes qui sont décédées en France. Ce que vous dites est évidemment une question très profonde. Moi, je n'ai pas la solution. Je peux vous donner des éléments. Enfin, je vais vous donner mes éléments de réflexion. Mes éléments de réflexion, c'est d'abord la réflexion que vous avez aujourd'hui comme bien portant sur ce que sera demain votre état. Vous ne savez pas ce que vous déciderez le jour où vous serez au moment où il faudra décider. On ne sait pas. Et c'est la mort et le bûcheron. Au dernier moment, s'il vous plaît, encore une minute, Monsieur Le Bourg. Donc, il y a une étude, je vous cite, qui a quelques 20 ou 25 ans, très intéressante, de patients jeunes, 20 ans, qui ont un accident de moto. Ils sont paralysés brutalement des quatre membres. C'est épouvantable. Nous ne voudrions pas vivre comme ça. Et on leur demande, est-ce que votre vie vaut le coup d'être vécue? Et leur réponse est non. La première semaine. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 12 mois plus tard, on leur repose la question. Votre vie vaut le coup d'être vécue? Et chaque fois, on s'aperçoit que, évidemment, le nombre de réponses qui disent « moi, je veux vivre » augmente. Et donc, ça signifie, première leçon de cette étude, que quand on est bien portant, on ne sait pas. Et dans cette étude, au même moment, on demande aux soignants qui, eux, sont bien portants et voient les gens souffrir, est-ce que leur vie vaut le coup d'être vécue? Et les soignants répondent toujours de façon pire que leur malade. Et donc, je pense que c'est très difficile quand on est, comme nous sommes autour de ce micro, et c'était sympathique émission, de se dire, et demain, si je... Oui. Moi, j'ai reçu la lettre bouleversante d'une dame qui souffre d'un locked-in syndrome. C'est cette paralysie de tout sauf des paupières. Hein, qui m'a dit, écoutez, ça fait 13 ans que je suis comme ça. J'ai vu grandir ma fille, j'ai vu naître ma petite fille. Ne légiférez pas, pourquoi? Parce que j'aurais forcément croisé un médecin qui, pour mon bien, aurait trouvé de bonnes raisons de me faire l'euthanasie.
Oui, mais Philippe Juvin, vous êtes un médecin, un grand médecin. Cette femme que j'ai citée vous envoie cette lettre à vous. Elle vous envoie cette lettre à vous. Cette femme, donc c'est pas moi bien portant qui ai des fantasmes ou des inquiétudes, c'est cette femme. Cette femme, vous faites quoi? Vous lui répondez quoi? Où est la compassion? Où est l'acte médical?
Je vais vous dire,
quand on ne peut plus aider à vivre, ne peut-on pas aider à mourir? C'est très difficile de se suicider. C'est pas si facile que ça. Vous faites quoi? Prenez quel médicament? Ça peut être douloureux, ça peut être dégoûtant. Donc, est-ce que vous ne lui injectez pas un produit létal à cette pauvre femme?
Bon, bon, je ne le fais pas. Je ne connais pas son dossier. D'ailleurs, personne ne connaît son dossier. Chaque cas est individuel. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces cas particuliers, et c'est pour ça, encore une fois, je le répète, qu'à la tribune de l'Assemblée, j'ai dit que je n'aurais pas été contre la réflexion sur une exception d'euthanasie en toute fin, quand la loi actuelle, la loi Leonetti, ne répond pas. En tout cas, je crois que les cas, on va dire limites, évidemment, doivent être pris en compte, et je prendrai en compte le cas de cette femme, mais certainement pas être considérés comme les fondements premiers d'une réflexion morale qui conduise à une modification de la loi qui est d'application générale. Parce que je vois la balance entre les avantages et les inconvénients de cette loi, et partout où la loi a été légalisée, elle a conduit à des dérives.
Denis Labelle.
Vous posez une question essentielle, complexe. Vous savez que le problème de la fin de vie, on n'a pas fini d'en parler. Là, on a cerné un petit problème de maladie grave, incurable, etc. Mais il y a bien d'autres problèmes qui vont être étudiés. Et les Belges et les Québécois continuent à se pencher sur le problème de façon non partisane. Moi, sur le plan idéologique, je ne peux pas prendre position vis-à-vis des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Je dirais que c'est aux malades de suivre. Moi, ce que je peux, c'est être là, essayer de lui répondre, essayer de voir comment je peux l'aider dans sa réflexion. Mais le jour où il voudra, où il décidera, parce qu'il est encore, il a un avis éclairé.
Encore
un avis éclairé.
C'est ça que je veux dire, oui.
Eh bien, ça ne me semblera pas illogique
de lui
demander s'il souhaite, et jusqu'au dernier moment, et de l'aider. et de l'aider. Oui.
Vous pourriez l'aider dans ce cas-là.
Oui, ça ne me semble pas impossible. Ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas connu ça de façon précise, soyons clairs. Les médecins souvent parlent de problèmes qu'ils n'ont pas bien connus. Moi, je ne connais pas bien le problème neurodégénératif, mais je connais bien le problème des maladies graves et incurables. Et là, pour l'Alzheimer, oui, j'essaierai de l'aider ou je demanderai l'avis de gens compétents pour savoir quelle est la situation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'un cap est franchi et que la personne n'a plus d'avis éclairé, bah, c'est impossible d'agir.
C'est impossible.
C'est impossible.
Alors, d'un autre côté, Denis Labelle, moi, je suis gêné par l'idée de mourir dans la dignité. Comme si ceux qui veulent vivre, continuer à vivre, encore une minute, M. le Bourreau, étaient indignes. Et là, j'ai été très frappé par une tribune de Michel Houellebecq dans Le Figaro. Je n'étais pas du tout d'accord avec ses conclusions. Il disait « on change de civilisation, on quitte la civilisation si on adopte une loi sur l'euthanasie ». Je trouve ça très exagéré, même exorbitant. Mais il dit ceci, « Je n'ai guère eu l'impression tout au long de ma vie de manifester une dignité exceptionnelle. Et je n'ai pas l'impression que ce soit appelé à s'améliorer. Je vais finir de perdre mes cheveux et mes dents. Mes poumons vont commencer à partir en lambeaux. Je vais devenir plus ou moins impotent, plus ou moins impuissant, peut-être incontinent, peut-être aveugle. Au bout d'un certain temps, un certain stade de dégradation physique, une fois atteint, je finirai forcément par me dire que je n'ai plus aucune dignité. Bon, et alors ? Ce mot de dignité, est-il vraiment bien choisi, Denis Labelle ?
Non, j'estime que ce n'est pas un problème de dignité. Alors là, je suis catégorique. Je respecte totalement les gens qui estiment qu'ils acceptent leur sort. Ils acceptent leur souffrance. Et je suis tout à fait admiratif de cela. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour moi, c'est un problème de liberté. Ce n'est pas un problème de dignité. Je pense que je le répète dans les associations qui disent le droit à la dignité. Non. Il faut respecter les avis différents. Et c'est ça qui est important. Nous sommes dans une république laïque où il y a des croyants et incroyants. Il y a des croyants qui pensent qu'ils trouvent leur dignité dans l'acceptation de leur sort. Et moi, je respecte. Mais qu'ils acceptent aussi que d'autres estiment que c'est indigne de mourir comme ça, avec décharné, de se perdre toutes ses capacités de vie. Donc, ce n'est pas un problème de dignité, c'est un problème de liberté pour moi.
Et pour vous, Philippe Juvin ?
Est-ce que vous ne trouvez pas, d'une certaine manière, que ce n'est pas le mourant qui perd sa dignité ? Moi, je ne crois pas du tout à cela, comme vous. Mais une société qui, du coup, leur offre quoi comme seule réponse de mourir ? Je discutais avec... un certain nombre de gens sont venus vous voir, bien sûr, avec une dame très gravement handicapée, qui me disait, vous savez, ma vie est une épreuve de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, je me pose des questions. Tous les jours, c'est difficile. Tous les jours, je dois lutter. Et en fait, c'est un peu comme si... le jour où je me pose la question, est-ce que je dois continuer à vivre, la seule réponse que désormais la société m'offre, en tout cas la réponse la plus facile et la plus rapide, c'est, eh bien, c'est là d'à mourir. C'est un peu comme si on posait sur ma table de nuit, m'a-t-elle dit, un pistolet chargé en disant, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Vous voyez, mon inquiétude, vous l'avez bien comprise, elle est là.
Oui, mais dans son livre Le médecin, la liberté et la mort, Denis Labelle cite le cas de cette femme, Chantal Sébir, c'est ça ? Atteinte d'un cancer facial. Je ne sais pas si elle peut aller dans soins palliatifs, mais elle veut qu'on l'aide à mourir. Elle veut. Ce cancer lui fait terriblement mal, la défigure, etc. Et là, je pense à une phrase qui va faire bondir Philippe Juvin de Georges Steiner, dans un livre d'entretien avec Laura Adler, Un long samedi. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré eux ceux qui n'ont plus pour espoir que de quitter la vie. Cela me semble d'un sadisme affreux. Georges Steiner, qui disait ça, il était pas bien portant, il était déjà très vieux.
Alors, premièrement, moi je ne suis évidemment pas contre le suicide, enfin ça serait absurde, évidemment. Deuxièmement, si c'est une loi de liberté qu'on veut, bah allons jusqu'au bout des choses. Pourquoi mettre des critères ? Quelle est cette vision de dire c'est une loi de liberté mais je mets des critères ? Allons jusqu'au bout des choses. Et c'est là où vous voyez l'ambiguïté, c'est qu'on essaye de rassurer l'opinion publique en disant « mais on va mettre des critères stricts ». Non, si c'est une liberté, allez-y. Encore une fois, la vraie question c'est qu'est-ce que la liberté ? Est-ce qu'on est toujours libre ? Est-ce que l'environnement ne joue pas un rôle ? Moi, ma crainte, c'est que cet environnement joue un rôle important. Enfin, vous avez cité Houellebecq, mais je vais vous le citer aussi, Houellebecq.
Ah ben, oui,
Houellebecq... On parle souvent du serment d'Hippocrate qui est utilisé comme l'argument d'autorité. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, l'argument d'autorité, quand on est médecin. « Je ne voudrais pas donner l'impression de me satisfaire d'un argument d'autorité », dit Houellebecq, « mais tous ceux qui ont pensé au cours des millénaires précédents étaient contre. Il y a une espèce d'arrogance progressiste qui me semble inouïe, dit-il. Elle revient à balayer toute la sagesse et les pensées antérieures. D'ailleurs, les philosophes se sont limités à la question du suicide. C'est peut-être parce qu'ils n'imaginaient pas qu'une société puisse envisager d'abord d'aboutir à des interrogations, à nos interrogations actuelles. Et vous voyez, il y a une sorte de, au fond, les traitements, les progrès thérapeutiques. Il est probable que le texte de Scheiner, aujourd'hui, on répondrait avec la loi Leonetti et aux techniques nouvelles. C'est un peu comme si on était ignorant de tous les moyens thérapeutiques. En tout cas, moi, je peux vous dire que dans mon service, quand les gens arrivent, souffrent. Eh bien, ils sont traités, ils ne souffrent plus.
Oui, enfin, en tout cas, Houellebecq oublie Francis Bacon, le fondateur du projet moderne. Il pensait que la mort, justement, l'euthanasie, pouvait, elle aussi, dans le cadre de ce projet, soulager le sort des hommes. Et dans cette tribune dont je vous parlais, Houellebecq va très loin. Lorsqu'un pays, une société, une civilisation en vient à légaliser l'euthanasie, il perd, à mes yeux, tout droit au respect. Il devient dès lors non seulement légitime, mais souhaitable de le détruire, afin qu'autre chose, un autre pays, une autre société, une autre civilisation, est une chance d'advenir. Donc détruire la civilisation, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse, ça me semble aller un peu vite en besogne. Denis Labelle.
Ça m'attriste un peu ce raisonnement, si vous voulez, parce que ça fait longtemps que la société a autorisé des choses inacceptables, y compris les religions. Moi, je suis désolé, mais on voit aujourd'hui nombre de, je dirais, de massacres, de vrais massacres, au nom de certaines positions religieuses. Je ne les nommerai pas, mais là, il y a eu rupture, mais elle est ancienne, la rupture. Là, je suis dans la compassion, ça n'a strictement rien à voir. Monsieur Houellebecq, je suis désolé, je ne partage rien de votre point de vue.
J'ajoute quand même, en pensant encore à Philippe de Villiers, qui rappelle le nazisme, et ça, quand même, il faut y penser. Philippe Juvin, au moment de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a une grande mobilisation, et Simone Veil, qui portait cette loi, a été accusée d'être nazie, c'est-à-dire de vouloir perpétrer un génocide. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ces deux attitudes ?
Alors, d'abord, moi, je n'ai jamais qualifié de presque nazi ou de nazi ceux qui sont pour cette loi. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, vous avez devant vous un des députés républicains qui a voté la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, vous voyez, je suis assez tranquille sur ce sujet. Bah oui, mais il se trouve qu'il y a 50 ans, je n'étais pas député, vous voyez, donc je l'ai voté quand j'ai été élu. Donc je sais que toutes ces lois, évidemment, et puis le débat, les passions, tout ça est très humain. Il est normal que les passions s'animent dans ces débats aussi importants. Mais encore une fois, j'essaie de le regarder de façon raisonnable. Je vous dis que la loi aujourd'hui, elle est avec des critères qui ne sont pas stricts et expéditifs, et qu'on a des réponses, En tout cas, et ce n'est que mon expérience, évidemment, qui est limitée au spectre de mon activité. Mais mon expérience me dit que quand il y a une demande d'euthanasie, on la résout, soit par des réponses, les soins palliatifs, mais on ne parle que de ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'environnement. J'apporte des réponses globales. Moi, par exemple, j'ai toujours dit que le dernier jour, je souhaiterais moi une seule chose, c'est que quelqu'un me tienne la main.
Mais justement, voilà. Est-ce qu'avec l'euthanasie, on ne peut pas apprendre à mourir ? Disait justement Jean Kelevitch. Mais il peut y avoir une bonne mort. Et la bonne mort, c'est mourir entouré des siens. Et ça, c'est la leçon du film de Denis Arcand, Les Invasions barbares. On lui inocule un produit létal, une infirmière à Corte, pourquoi pas. Et ses amis, sa famille est là. Et moi, je me dis, oui, plutôt que de mourir seul à l'hôpital au petit matin, si je pouvais mourir à un moment de mon choix, quand il n'y a plus d'autres possibilités, mais entouré des miens, j'aurais au moins une bonne mort. Ça n'éteindrait pas le scandale de la mare, mais ce serait une bonne mort.
Mais ma réponse, c'est que ça, entouré des siens, c'est possible aujourd'hui, dans le cadre hospitalier, sans avoir besoin d'administrer un médicament qui tue. Mon père avait une maladie neurodégénérative qu'il a laissée grabataire. Il est décédé dans une unité de soins palliatifs. Il se trouve qu'il était médecin. Le soir où nous avons décidé de l'endormir, le médecin qui était de garde ne savait pas poser les perfusions. C'est moi qui ai posé la perfusion pour endormir mon père. Je n'ai pas le sentiment de l'avoir tué. J'ai le sentiment de l'avoir endormi. Et tout est là. C'est là la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons garantir une anesthésie générale aux gens qui souffrent.
Alors, un mot pour conclure.
En France, 75% des malades meurent en dans les institutions. 75%. En Belgique, les patients qui choisissent l'aide à mourir, 60% meurent chez eux. Moi, mon souhait, c'est de mourir à mon domicile, entouré des miens. C'est mon souhait. Et comme c'est mon meilleur souhait, je l'espère pour les autres.
Très bien. Écoutez, merci à vous pour cette conversation passionnante. Je rappelle, Denis Labelle, le titre de votre livre, Le médecin, la liberté et la mort, livre publié chez Plon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.
Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne t'effera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi.